This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason, l'histoire ou quand le jazz rattrape et retrouve ses repères. Ou plutôt, cette semaine, émission spéciale toute la semaine, puisque ce serait plutôt Jason, l'histoire ou quand l'histoire rattrape l'histoire. En effet, vous le savez évidemment, hier a eu une grande manifestation à la fois nationale, dira-t-on, du peuple français. Il nous a paru intéressant à Divergence de retranscrire un peu par des témoignages des ceux qui ont fait Charlie Hebdo, l'histoire de Charlie Hebdo. Car en effet, dans cette manifestation, dans ces manifestations, beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents qui étaient venus là, non pas pour défendre Charlie Hebdo, mais pour défendre la liberté avec un grand L. Mais il nous a paru important à nous eh bien, de retranscrire un peu, autant que nous pouvions le faire, qui était Charlie Hebdo et comment a été créé Charlie Hebdo. J'ai auprès de moi Florent Robin. Florent, bonjour.
Bonjour Gérard.
Et donc, il m'a paru être intéressant que nous puissions tous deux essayer de retranscrire autant que faire se peut avec le maximum de véracité l'historique de Charlie Hebdo. En effet, Charlie Hebdo n'est pas né comme ceci, il est né de la volonté de personnages et de personnes vraiment exceptionnelles qui, elles, ont, dès le début et dès les années 60, de par une genèse et de par leur volonté, créé donc ce qui allait devenir Charlie Hebdo. Le premier de ceux-ci, on va dire, ce sera donc François Cavanna, un Rital aux allures de bûcheron de deuxième ligne, avec des moustaches à la gauloise et qui, d'une voix très douce, va rencontrer là aussi un autre personnage exceptionnel. Mais tout ceci, ce sera dans le début de ce qu'allait devenir Charlie Hebdo, Florent.
Oui, ben c'est la rencontre de François Cavanna. François Cavanna, donc le Rital, comme tu le disais. D'ailleurs, il l'a écrit dans un de ses livres, l'un de ses premiers livres qui s'appelle Le Rital. Il était fils donc d'émigrés italiens et son père était dans le bâtiment. Et lui, après tout un parcours, va se retrouver dessinateur de presse. Dessinateur de presse à la fin des années 50 ou dans les années 50, c'était pas du tout facile de placer ses dessins. Il se retrouve dans un journal qui s'appelle Zéro, un journal qui était en vente dans la rue. Et l'un des vendeurs de ce journal, c'était un monsieur qui s'appelait Georges Bernier, qui s'est très vite avéré le meilleur vendeur du journal. Georges Bernier, bien sûr, c'est devenu plus tard le professeur Choron.
Personne ne réalise tout à fait, je pense, tout ce qu'on lui doit. Il y a plein de dessinateurs qui ne seraient pas là sans Cavanna.
On vient d'entendre Charb, effectivement, malheureusement disparu, vous le savez, dans l'attentat, et qui explique ainsi que, eh bien, c'est grâce à Cavanna que tout un tas de dessinateurs vont se retrouver plus tard dans Charlie Hebdo. Mais dès le début, effectivement, Cavanna, qui est passé par différents métiers, petits métiers, parce que son père était dans le bâtiment, il sera vendeur, il aura fait tous les métiers, et il va faire du porte-à-porte auprès des journaux de l'époque qui diffusaient des dessins humoristiques, on va dire, entre autres, allez, Paris Dimanche, je ne sais plus quels étaient les titres à l'époque, mais il y avait 4 ou 5 hebdo qui publiait cela, et il sera sans arrêt mis un peu à l'écart en lui disant que bon, ce qu'il fait, c'est bien, mais que ça ne correspond pas à l'image du journal, parce que c'était des journaux très people, comme on dit maintenant.
Il y avait le hérisson aussi, et pour la plupart des dessinateurs de presse, bah, ils allaient faire un peu tous du porte-à-porte pour caser un petit dessin, pour avoir 3 francs 6 sous pour leur permettre de vivre. Et là, ils se sont retrouvés à Zéro, qui était un journal qui n'était pas diffusé en kiosque et qui permettait aux jeunes dessinateurs d'avoir une petite chance. Mais en même temps, ce n'était pas la liberté qu'il y a eu après quand ils ont créé Harakiri. Harakiri, le premier journal, le premier titre du journal.
Et il faut dire que Harakiri avait pour titre « Journal bête et méchant ». Et là aussi, il y a une petite explication à ce titre-là.
C'est vrai que quand ils ont commencé à faire paraître les premiers numéros du journal, Bernier et Cavanna, il y a un lecteur qui a dit, qui a envoyé un courrier en disant « Vous êtes bête et méchant ». Et là, bien sûr, Cavanna et Choron ont dit « Mais bien sûr, on est bête et méchant, donc Harakiri, journal bête et méchant ».
On va donc écouter la version de François Cavana.
Pendant tout ce temps-là, je me gonflais la tête avec mon... J'ai toujours cette idée de grand, vrai, chouette journal humoristique et drôle et vivant et intelligent. Ça ne me quittait pas et le temps passait. Et j'en parlais à Bernier. Et c'était devenu notre rêve à tous les deux. Georges Bernier, oui, qui n'était pas encore le professeur Choron. Avec lui, on était... Et comme lui, à la mort du gars qui faisait le journal, a pris la succession... Lui avait l'idée de faire un vrai bon chouette journal. Alors, on l'a fait. Et c'était le premier numéro d'Harakiri.
Et voilà comment va naître donc ce Harakiri numéro 1 qui va commencer un peu, dès le premier numéro, à défrayer la chronique quand même.
Oui, parce que c'était du jamais vu ce qui s'est passé à Harakiri, c'était du jamais vu, parce qu'il y avait bien sûr des dessinateurs de presse, mais il n'y avait pas cette liberté de ton, il n'y avait pas ce caractère iconoclaste, rigolard, parce que c'était un journal rigolard, Harakiri Hebdo, et on va revenir très vite sur le professeur Choron, parce qu'il n'y aurait pas eu ce journal sans le professeur Choron, parce que c'est quand même une sacrée personnalité, monsieur Georges Bernier, hein, qui a été ancien légionnaire, qui à un moment était tuberculeux et qui a failli mourir de la tuberculose et qui dit ce qui m'a sauvé, c'est l'alcool et la cigarette.
Plus un peu, comme il le dirait parfois, même s'il ne voulait pas vraiment l'avouer, on peut dire aussi les putes quand même. Parce que faut-il rappeler que le professeur Choron a été le seul à présenter à la télé une ancienne prostituée qui était devenue sa compagne avec les plus grands éloges sur ses capacités à la fois sexuelles mais également humaines.
Oui, ça c'était tout le professeur Choron, et en même temps l'immense talent, parce que c'est le professeur Choron qui gérait le journal dans des conditions difficiles, on va le voir, qu'il gérait à peu près plus ou moins, un peu à la va comme je te pousse, parce que le journal il marchait vaille que vaille, parce que c'était pas facile de créer un journal comme ça qui était diffusé en kiosque, et il y a eu tout un tas d'interdictions, mais ça on va y revenir. Et moi j'aimerais bien écouter le témoignage de Cavana où il nous parle de Choron, du professeur Choron alias Georges Bernier.
Formidable, un gars qui était un peu chiant parfois, parce que même quand il avait une mauvaise idée, il n'en demandait pas. Mais quand il avait une bonne, elle était fulgurante. Et il s'est pris au jeu, il s'est mis à aimer le journal, à aimer ce qu'il disait. Je voulais le pousser à écrire parce qu'il avait un talent d'écriture. Mais il n'était pas capable de se plier longtemps à une discipline. Écrire, c'est quand même, ça nécessite de se faire chier devant une feuille de papier, quoi. Ne serait-ce que pendant une heure ou deux. Lui, il écrit des petits textes qui sont encore dans le vieux numéro d'Harakiri, renversant, hein. Vraiment. Là, on sent un tempérament, on sent quelqu'un. Par la suite, il a fait des chansons.
Et oui, il a fait des chansons, comme le dira Cavana, effectivement. Et quelle chanson ? Peut-être celle qui, on va le dire, son titre de gloire, hein. Dieu sait s'il y en a eu beaucoup. Mais je pense que celui-ci, on ne va pas donner le titre parce qu'il est cité maintes fois dans la chanson, mais je pense que les anciens, on va dire les anciens quand même, vont reconnaître effectivement ce titre-là.
Petit con pour souffler débile, toute la journée dans la gueule, un biberon en caoutchouc synthétique de merde. Et il a pas chié le petit con, il a pas fait son rôle petit con, et on lui tape dans le dos petit con. Et guilé guilé, et il ressemble à son père de merde. Et guilé guilé, il a les yeux couleur merde, de sa mère de merde. Petit con boursouflé débile, dans son berceau en dentelle de merde. Sur cette planète de merde. Oh la testiculose, oh la testiculose, vive la testiculose. Soufflé débile est devenu un jeune con d'adolescent. Alors là, s'il y a un âge con, c'est bien l'adolescence de con. Première émotion sexuelle, ça lui gratouille entre les jambes, jeune con. Prends-toi, fais pas chier le monde, et on lui apprend à aimer les fleurs, au jeune con. Les fleurs t'emmerdent, et on lui apprend à aimer les arbres, jeune con. Les arbres t'emmerdent, jeune adolescent de con sur cette planète de merde. Oh la testiculose, oh la testiculose, vive la testiculose. Des gros cons, c'est bien les gros cons d'adultes, croient tout savoir les gros cons, ça veut rien les gros cons. Pour traverser une rivière, faut qu'ils construisent un pont. Gros cons d'adultes veulent pas louper le feuilleton de la télévision, les gros cons, les pieds dans leurs pantoufles de merde. Gros con d'adulte sur cette planète de merde. Oh la testiculose, oh la testiculose, vive la testiculose. Vieillesse, même pas la peine qu'on en parle. Quand on est vieux, on n'existe déjà plus. On est foutu. Vieille serpillère de merde, juste bon à bouffer, à chier. Un pied dans la tombe, un pied pour nous faire chier. Heureusement, vont bientôt crever les vieilles serpillères de merde. Et on va faire un grand trou, et on les foutra dans le trou, et de la terre par-dessus, et on n'en parlera plus. Oh la testiculose, oh la testiculose, vive la testiculose. Spermatozoïdes, petite bête ovoïde, entre les jambes de papa, souvenons-nous où étions bien là, c'était la sécurité, à ton chaud et à manger, pas
pas peur de la solitude. Étions une multitude dans l'espace de deux doigts entre les jambes de papa.
Eh bien voilà, c'était donc notre vie résumée avec l'humour corrosif du professeur Choron. Faut-il rappeler, Florent, que là, on n'a pas écouté la version originale, mais une version live.
Voilà, c'est tout. Bon, moi, j'ai la version originale, je la retrouverai un de ces jours dans mes archives. Mais c'est vrai qu'il y a un côté quand même punk chez Choron. Et on n'oublie pas qu'on est dans les années 60, quand il a créé Harakiri. Mais déjà, dans Harakiri, il y avait l'esprit punk qui n'existait pas. L'esprit punk est venu bien après, mais il y avait quand même un certain esprit punk. Et surtout chez le professeur Choron, parce que le professeur Choron, il est quand même assez inénarrable.
Bah, il faut dire qu'en dehors des chansons qu'il a écrites, il a aussi fait, on peut dire, carrément des sketchs. Peut-on rappeler que dans certaines émissions de Hardisson, à l'époque tout jeune animateur, eh bien, il arrivait déguisé avec un treillis, il s'en prenait aux militaires, il s'en prenait aux curés, il s'en prenait à tout le monde avec sa faconde et sa verbe et ses accents ponctués de coups de gueule, on peut dire.
Et puis il ne faut pas oublier aussi dans Harakiri plus tard, mais il y a eu les fiches bricolage du professeur Choron qui étaient en photo.
La gaufre à billets.
Ah, c'était extraordinaire, les fiches bricolage du professeur Choron, c'était un grand, grand moment.
On va peut-être pouvoir dire aux jeunes générations que s'ils veulent se délecter de ceci, je crois que sur YouTube, on peut retrouver quelques extraits de ces fiches bricolage.
Immense fiche bricolage de l'immense professeur Choron. Et il ne faut pas oublier aussi que Harakiri, qui est devenu plus tard Charlie, mais ça on l'expliquera dans les prochaines émissions, c'était toute une équipe qui s'est faite petit à petit. On disait que il y avait Cavana au départ, Cavana qui était dessinateur de presse, mais très vite dans ce Harakiri, il y a eu plein de dessinateurs de presse qui étaient tous frustrés de ne pas pouvoir s'exprimer comme ils le voulaient, qui ont rejoint Harakiri en 1960.
Et notamment, eh bien, c'est Cavana qui va vous en parler parce qu'il était, lui, comme il va le dire, tout simplement Manuel, ravi de recevoir les plumes qu'il allait recevoir.
GB, Topor, Reiser, Polinski, ils sont venus petit à petit et je les accueillais à bras ouverts. Moi. Quand j'ai vu des gosses de ce calibre-là, mais ouais. J'ai l'honneur, moi, petit con, petit Manuel, j'ai des gars comme ça qui travaillent pour moi et qui travaillent avec moi dans le même esprit de faire quelque chose de formidable. Alors là, j'étais bon.
Et oui, j'étais bon, comme il le dira Cavana, parce qu'effectivement, rassemblant donc autour de ce titre qui venait de sortir, les grands dessinateurs qui aujourd'hui font partie de ces dessinateurs légendaires, on peut dire, qui se sont succédés. Et effectivement, quand on a Volinsky, quand on a Reiser, qui est peut-être le plus méchant, on va dire.
Oh, ils sont tous méchants. Si c'est un concours, je ne sais pas à qui il faut donner la palme, parce que Volinsky pouvait être très méchant. J'ai encore des souvenirs de couverture de Harakiri Hebdo qui sont terribles. C'est vrai que Reiser, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, qui a disparu lui il y a pas mal d'années, c'était aussi le gros dégueulasse. Les aventures du gros dégueulasse. Je voudrais préciser que aussi la plupart de ces dessinateurs, ils travaillaient pour des journaux pour la jeunesse parce qu'il faut bien bouffer tous les jours. Et ils travaillaient aussi. Il y a un rédacteur en chef dans un journal pour la jeunesse qui les avait accueillis, c'est Goscinny dans Pilote. La plupart de ces dessinateurs-là aussi travaillaient dans Pilote.
Et oui, c'était l'époque où effectivement tout s'exprimait de manière plus ou moins virulente parce que je crois que Harakiri leur a permis d'exprimer toute la violence, si on peut dire ainsi, qu'ils voulaient mettre dans leurs dessins et surtout cette totale liberté parce qu'aucun journal n'avait jusqu'à présent osé donner cette liberté à quiconque.
C'est même pas de la liberté, c'est le pouvoir de se lâcher enfin après des années où on se retient, dire il y a un journal où on peut se lâcher, on peut y aller, on peut dire ce qu'on veut et on peut rire de tout.
Je crois que c'était surtout ça, rire de tout. Il faut bien. C'était donc, il faut imaginer qu'on est dans les années 60, c'est quand même pas. 68 n'est pas encore passé par là. Mmh. Et de ce fait, imaginez un peu quelle pouvait être la réaction d'une part des lecteurs, mais aussi des gens qui étaient brocardés quand même.
Oui, parce que Harakiri se foutait de tout le monde, de toutes les institutions. Il se foutait, entre autres, déjà à l'époque, de la religion, parce que c'était quand même des bouffeurs de curés, Harakiri. Toutes les religions, mais surtout à l'époque, l'oppression, c'était la religion catholique en France. Donc le pape et consorts et toutes les églises en prenaient pour leur grade.
Oui, la maréchaussée aussi, les institutions même politiques en prenaient pour leur grade. Tout le monde y avait droit. Et parfois, ils avaient tellement d'humour qu'on se demandait si vraiment ils n'inventaient pas un peu, c'est une, parce qu'ils avaient aussi à un moment instauré ce qui a fait leur succès, je crois, c'était les unes qui étaient des contre-publicités.
Oui, puis il y avait toute l'institution aussi des couvertures auxquelles vous avez échappé, parce que il faut voir que les comités de rédaction, ça fusait de tous les côtés. Vous aviez tous les dessinateurs qui étaient autour d'une table, et ça fusait, tout le monde buvait beaucoup aussi. Et puis, on ne pouvait pas garder tous les dessins pour la une, donc il y avait une rubrique dans Harakiri, c'est les couvertures auxquelles vous avez échappé.
Et oui, et comme ça, donc vous avez échappé à cela, mais grâce à ces gens-là, eh bien, sachez que plus tard va naître donc Charlie Hebdo, dont on a célébré malheureusement un triste anniversaire, on va dire, puisque comme vous le savez, la plupart, et notamment certains, ont péri durant l'attentat. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de savoir que Charlie Hebdo, eh bien, ce sera après-demain dans les kiosques avec ce numéro-là, et je crois qu'il faut saluer le courage de ces dessinateurs, parce qu'il n'y avait pas que des dessinateurs, il y avait aussi des gens qui écrivaient. Et je crois que le plus bel hommage qui leur a été rendu, parce que j'ai regardé un peu la télévision hier soir, eh bien, sachez que toute l'équipe a été réunie sur le plateau d'Antenne 2. Et il y a eu une standing ovation qui a dû durer pratiquement 5 minutes. Et je crois que l'émotion est passée. Avec leur dignité, ils ont fait valoir qu'ils étaient toujours là et que rien n'aurait changé. Et je crois qu'on va le dire nous aussi parce qu'il le faut. Bien sûr qu'il faut s'abonner, c'est une manière de soutien. Mais je crois que ce qu'ils ont surtout ressenti, c'est qu'effectivement, au-delà du soutien, de l'abonnement, c'est la présence du peuple français qui se délecte de savoir que ça va continuer.
Moi, ce que je voudrais rajouter là-dessus, pour paraphraser un peu Beaumarchais, c'est que sans liberté de blasphème, il n'est point de liberté de croire.
Alors, on va quand même faire une petite pause musicale. Et qui mieux que Duke Ellington, qui était un des musiciens favoris d'un des dessinateurs, Cabu, qui, on le sait, a fait, je crois, une soixantaine d'albums, Cabu et le jazz, Duke Ellington, East Side, West Side. Thank you. Duke Ellington, East Side, West Side. Et comme nous devons, nous, de vous dire que cette émission est totalement improvisée, c'est du direct, en direct et en direct. Et de ce fait, on a vraiment oublié un grand personnage dans les non-cités. On a oublié Fred.
Ah oui, Fred, qui était aussi dans les collaborateurs du début de Harakiri. Fred, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est entre autres le créateur de la bande dessinée Philémon, qui paraissait en parallèle dans Pilote.
Et oui, donc on en oublie parce qu'il y a peut-être aussi... il a fait qu'un passage hétéroclite et rapide, c'est également Francis Blanche.
Oui, aussi, il y a eu Francis Blanche dans les débuts de Harakiri. Mais c'est quand même bien dans l'esprit, Francis Blanche, Harakiri.
Ah oui, c'est sûr qu'ils étaient tous là, il n'y a pas d'autre mot. On peut dire que tous, ils sont passés à un moment ou à un autre, parce qu'on peut dire, mais c'est beaucoup plus loin, c'est pas dans Harakiri. Coluche est également passé dans l'équipe.
Ah, ça, c'était dans Charlie Hebdo. C'était dans Charlie Hebdo. À l'époque de sa campagne présidentielle. Et Charlie Hebdo a été l'organe officiel de la campagne présidentielle de Coluche.
On était en 80. On va rester dans l'année 60-61, parce que là, il va se passer un événement. Ce sera la première interdiction de Harakiri. Parce que vous imaginez bien que personne ne pouvait se satisfaire d'un journal pareil qui s'en prenait à tout le monde. Et par conséquent, ils sont interdits en 61. En 61, première interdiction.
Première interdiction, parce qu'il y en a eu d'autres, il y a eu des procès, mais la première interdiction, c'est un an après le début du journal. Dès 61, paf, on interdit le journal.
Et il faudra attendre bien pratiquement, je crois que pendant 5 ans, ils ne vont pas reparaître, et ce sera donc, ils vont un peu sous le manteau réapparaître, mais pas d'une manière aussi officielle, jusqu'à ce qu'une deuxième arrive à les frapper, et ce sera en 1966. C'est pour vous dire que ce journal Harakiri, qui allait donner naissance à Charlie Hebdo, eh bien, ne s'est pas fait sans douleur et sans péripéties.
Oui, il y a eu les interdictions, il y a eu les procès. Donc la première interdiction, 1961. Mais il faut bien se resituer dans l'époque. C'était impensable. On est en plein gaullisme, la France de Gaulle. C'est quand même une société quand même bien policée. Vous avez un journal qui arrive et qui ne respecte rien, qui ne respecte pas les religions, qui ne respecte pas les politiques, qui ne respecte même pas la gauche et qui fait feu de tout bois et qui tape sur tout ce qui bouge. Et toujours de façon extrêmement drôle.
Nos cœurs sont à gauche. Mais c'est une raison de plus pour taper sur la gauche quand elle fait le con.
Et oui, donc vous voyez que même à gauche, eh bien, n'hésitez pas à taper dessus. Avec beaucoup de recul, c'était Cavana bien des années plus tard. Mais sachez qu'à l'époque, eh bien, tous les politiques en prenaient pour leur grade. Et avec vraiment, 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 on peut le dire, de la sérénité, mais vraiment, non pas de la violence, parce que c'était des gens qui étaient pacifiques, peut-on le dire. C'était des gens les plus doux, mais qui vraiment...
C'était des gentils, en fait.
Ne respectaient que leur opinion et allaient au charbon, le cœur battant, en se disant qu'il fallait y aller.
Et puis n'oublions pas qu'à l'époque, il y avait le Parti communiste qui avait lancé la main tendue à l'Église. Et donc Charlie Hebdo, qui était quand même, Harakiri à l'époque, qui était un journal laïque, anticlérical, il ne laissait pas passer ce genre de choses.
Eh bien, faut-il dire, voilà un peu comment Cavana définissait Charlie Hebdo.
Le slogan était Harakiri. Exactement, c'était « Si vous avez un franc à foutre en l'air, achetez Harakiri, journal bête et méchant, sinon volez-le. »
Et oui, donc là, tout était vraiment dit avec beaucoup d'humour et avec beaucoup de sincérité. Si vous n'aviez pas un franc à l'époque, c'était encore des francs évidemment, eh bien, il vous conseillait carrément de le voler. Je ne sais pas si les marchands de journaux étaient d'accord avec cela, mais enfin, c'était l'esprit d'Harakiri. Et c'est ainsi qu'on va donc terminer l'émission avec quand même une petite plage musicale qu'on va concéder au clarinettiste Buddy DeFranco, qui lui aussi a eu la mauvaise idée, non pas de mourir dans un attentat, mais d'une longue maladie. Il avait 90 ans. On va donc se quitter ainsi, Florent, et on se retrouve demain.
Mais on se retrouve demain pour continuer l'aventure Harakiri Charlie Hebdo.
Voilà.
Bête et méchant.
À demain. Thank you.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte J.W.R. en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.